Bonjour, monsieur l'écureuil, que tu as une belle couleur. C'est pour mieux te séduire, mon enfant. Oh, monsieur l'écureuil, comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te sourire, mon enfant. Oh, monsieur l'écureuil, que tu as une grosse queue. C'est pour mieux t'en... Mon enfant.
Bonjour, ici Anne d'Ardèche. Je vous appelle pour vous dire que ce n'est plus supportable vos publicités débiles passées en fin d'émission. Émission très intéressante. Alors, la Matmut ou la Caisse d'Épargne, foutez-nous la paix avec. Au revoir.
Salut à toute l'équipe, salut aux auditeurs. Je voudrais réagir à un message que tu as passé là aujourd'hui, mardi. Un gars qui s'est présenté comme un des organisateurs de l'appel à la candidature de José Bové, que j'ai signé moi dès le lendemain, comme plus de 15 000 autres personnes depuis, et qui refusait, alors bon, il est peut-être habilité à le faire, et qui refusait la signature de Dieudonné. Moi, personnellement, je suis pas un fan de Dieudonné, mais bon, je veux dire, le fait qu'il aille provoquer un petit peu et poser le débat sur le fait de discuter avec le Front National... On peut être pour, on peut être contre, ça se discute, Dieudonné, voilà, je ne le mets pas dans le même lot que Jean-Marie Le Pen, quoi. En plus, moi je suis issu d'une famille où les gens votaient à Tixier-Vignancourt à l'extrême droite, donc j'ai toujours été obligé de discuter avec eux, de me bagarrer avec eux sur les idées, et je trouve que c'est un petit peu sectaire de décider qu'un tel on prend sa signature et un autre on ne le prend pas. D'autant plus que les gens qui ont signé, les 15 000 qui ont signé, il se peut très bien qu'il y ait des électeurs du Front National ou des sympathisants du Front National qui voient d'un bon œil une candidature José Bové, quoi. Alors ça me semble un petit peu bizarre, quoi. Ce serait pas mal d'avoir une émission sur la candidature et même avec Bové par rapport à l'engouement que ça propose. Si d'ici la fin du mois il y a plus de 30 000 personnes qui signent un appel, ça me semble intéressant qu'on puisse avoir une émission et qu'on aborde un petit peu ce sujet, parce que ça m'a un petit peu heurté, bien que je suis tout à fait enthousiaste à l'idée d'aller coller des affiches de José Bové. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la direction des musées de France. Nous sommes actuellement en réunion avec Monsieur Henri Loirette, directeur du musée du Louvre, et quelques politiciens haut placés afin de finaliser la vente du Louvre et de notre patrimoine pour la modique somme de 700 millions d'euros. Merci de laisser un message après le bip sonore.
Bip ! Si comme nous, ce message vous alarme, si comme nous, vous considérez que le patrimoine n'est pas à vendre, allez sur le site www.latribunedelart.com, vous y trouverez des informations sur ce projet purement commercial et vous aurez la possibilité de signer la pétition qui a déjà recueilli plus de 3000 signatures. Mobilisez-vous car le pire est encore à venir.
Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à toi Daniel. Bon, bah encore une fois, hein, félicitations. On peut dire que ça, quoi, la jeune femme, la Pascale, qui a interviewé Jérôme, c'est extraordinaire. Bon, j'ai pris l'émission en route, je sais pas quel grand malheur il lui est arrivé avant. Bon, enfin, tous les gens qui sont à la rue ont eu des grands malheurs. Mais je t'avais laissé un petit message une fois, mais il y a pas longtemps. Mais je retire pas ce que j'ai dit, quoi. Pour moi, les Don Quichotte, c'est des charlots. J'ai l'impression que c'est des paillettes. C'est des gens qui servent un petit peu le pouvoir en place. Même, on va dire, beaucoup, parce que, bon, ils en ont besoin, hein, c'est bien, comme tu disais dans l'émission, le SDF, c'est comme le cochon, tout est bon. Enfin, c'est très grave que personne s'en occupe pendant des années, puis d'un seul coup, on se réveille, quoi. Et, enfin, ça, je parle pas de nous, hein, parce que nous, on le sait, mais les gens du gouvernement. Bon, ben, continuez comme ça, c'était Jean-Paul de l'Essonne, et merci pour tes émissions et ton impartialité. Au revoir.
Bonjour, je suis Isabelle Bricot, je fais partie du collectif des enfants de Don Quichotte qu'on a monté sur Toulouse. C'était pour te dire que nous aussi, ça bouge largement, on est tout le temps mobilisés sur le terrain, là depuis le 2 janvier. Ce serait quand même bien de le signaler. On a organisé des concerts le dimanche et là, aujourd'hui, on est en rassemblement devant la préfecture pour être reçu par le préfet. Voilà, on est le deuxième campement qui bouge le plus après Paris et sur toute la province. Merci, au revoir.
À propos des sans domicile, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est quand les enfants de Don Quichotte, ils ont décidé d'arrêter leur mouvement parce qu'ils avaient eu des promesses qui leur convenaient. Et j'ai eu le sentiment que les personnes qui campaient et que les SDF n'avaient pas été consultées, que c'est les chefs, les gars qui parlaient devant les caméras, voilà, ils ont dit bah bon, nous on arrête. Puis les autres, bah ils restent là en attendant quoi, que la loi soit appliquée, et on sait le temps qu'il faut pour appliquer des lois. Et ça, c'est vraiment le problème du militantisme dit moderne, c'est que il y a des gens devant la caméra qui parlent et puis qui font des actions comme ça, très très, qui se voient, médiatiques et tout. Et puis il y a toujours les petits derrière qui suivent ou à qui on demande vaguement leur avis de temps en temps, quoi. Et ça va pas. Hein, c'est les gens qui doivent décider. Et c'est comme pour les élections. Moi, dans mon collectif, on a voté pour Marie-Georges Buffet. On est rentré en campagne et voilà. Et on distribue le tract pour son meeting au Zénith le 23 janvier. Parce qu'on est des petits, nous aussi, qu'on n'est pas devant la caméra, mais nous, on a voté, on a décidé. Alors, on fait. Voilà. C'est ça, la vie des gens. Ça se passe pas devant la caméra. Au revoir.
Mais ça se passe quand même sur le répondeur. Ben, si j'y suis, on glisse son petit message et c'est, vous avez bien raison. Merci en tout cas pour tous ces messages, des réactions nombreuses sur le reportage d'hier de Pascal Pascariello avec Jérôme, ce SDF. A-t-on assez dit que ce mot devait être pris avec beaucoup de circonspection, et cette rencontre effectivement tout à fait étonnante, très courte pourtant, avec sur le au bord du canal Saint-Martin avec un des bénévoles de Don Quichotte. Aujourd'hui, on va passer cette heure avec Edgar Morin, que vous connaissez bien, qu'il est inutile de présenter, sociologue, philosophe, homme engagé, et qui s'est toujours efforcé, au cours de sa belle et longue carrière, de penser l'événement, c'est-à-dire de réagir rapidement, un petit peu d'ailleurs, comme Pierre Vidal-Naquet, qui pensait que l'histoire, ben, ça peut être tout de suite. Et Morin a pensé que la sociologie, ça pouvait être immédiat aussi, qu'on pouvait réagir rapidement aux événements. Il l'a fait tout au long de sa carrière. C'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui. Ça a d'abord un plaisir de retrouver Morin, 86 ans, Edgar Morin, bon pied, bon œil, impeccable, et avec une petite jubilation particulière quand même, parce que il est arrivé un sale coup, Edgar Morin. Vous vous souvenez peut-être de la publication qu'il avait faite avec deux autres auteurs, Daniel Salnave et Sami Nahir, dans le journal Le Monde en juin 2002, d'un article intitulé « Israël, Palestine, le cancer ». Et à la suite de ça, il a fait l'objet de poursuites en justice pour apologie de terrorisme et antisémitisme. Et il se trouve que, dans un premier temps, eh bien, il a été condamné. Edgar Morin a été condamné, ainsi donc que le journal Le Monde. Et puis, il y a eu un recours, et les auteurs de l'article se sont pourvus en cassation, et il y a eu un verdict le 12 juillet 2006 qui annulait le jugement d'appel et condamnait à l'amende les poursuivants, reconnaissant que les passages isolés par ceux-ci devaient être situés dans leur contexte interne à l'article et leur contexte externe, et le jugement répudiait ces prétentions des poursuivants, et un jugement qui avait été considéré comme qui devenait grotesque, et l'affaire a été ainsi conclue définitivement. Mais n'empêche que dans ce genre d'affaire, même lorsqu'on est relaxé, même lorsque les poursuivants sont ainsi eux-mêmes condamnés, en somme, il reste une tâche quand même, tant le préjugé est plus fort que la chose jugée, le soupçon, les préjudices restent longtemps. Et on aurait pu penser que quelqu'un comme Edgar Morin, qui fait des livres, c'est un homme qui écrit, allait faire un livre sur cette question-là, et pour expliquer, pour... Eh ben non. Il a commencé, et puis finalement il a fait un livre plus large, qui est très personnel, qui s'intitule « Le monde moderne et la question juive ». Il n'a pas voulu tellement revenir sur ce procès qui, malgré ce qu'il en a dit, je le sais, l'avait beaucoup touché. Mais il a pensé aussi à tous ceux qui ont fait l'objet de poursuites injustes et indignes. Il cite les trotskistes qui ont été accablés et injuriés en tant qu'espions et assassins hitléro-trotskistes. Il a pensé aux critiques du Parti communiste et de l'URSS qui dénonçant comme anticommunistes viscéraux certains intellectuels ou militants qui osaient à l'époque contester la juste ligne du parti, etc. Et il bien dans son rôle, évidemment, de considérer que, ben, quand on est visible, on est visé, et quand on prend parti, on est pris à partie. Donc voilà, ça, à partir de cette histoire, il a, s'est lancé dans ce livre, Le Monde moderne et la question juive, et il apporte une lumière qui est la sienne sur cette identité juive, sur ce monde juif à travers l'histoire. C'est avec lui donc qu'on va passer cette heure. Après les messages que voici à nouveau parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel Vermeer. Ben, je suis comme l'auditrice d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai envie de mettre le feu au bus. Mais il faudrait qu'on soit là, nombreux. Et aussi nombreux qu'autour de la suite de Sarkozy. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai peur. Le show organisé autour de Sarko, relayé par les médias. Je pense à une scène du film Une journée particulière où les Italiens pauvres et riches acclament Mussolini. Et je pense aussi, j'avais 6 ans en 1940, et toutes les écoles emmenaient les élèves à la place Lamartine, accueillir le maréchal Pétain avec un petit drapeau tricolore en chantant « Maréchal, nous voilà », que nous avions pris et répété dans le froid pendant des semaines. Est-ce que les médias s'interrogent sur leur rôle? Est-ce que les journalistes le font également? Et est-ce que les gens sont plus vigilants qu'en 1940? Je vous remercie infiniment pour vos émissions. Heureusement qu'on peut se raccrocher à vous.
Salut Daniel, c'est Jean-Philippe de Haute-Savoie. Alors, je t'entends plus parce que les horaires font que. Mais je voulais juste profiter du répondeur qui est toujours là, lui, heureusement. Il faudrait prévenir Monsieur Jean-Marc Sylvestre qu'on n'est pas encore au deuxième tour. Donc ce matin, il parlait des candidats. Il n'y en a pas que deux, quoi. C'est juste comme ça, pour peut-être qu'il ouvre les yeux. Il n'y a pas que son candidat plus l'opposition. Voilà. À bientôt.
Oui, bonjour. C'est Rosine dans les Bouches-du-Rhône. Bon, Daniel, il nous le faut, ce candidat réellement unitaire à la gauche de la gauche. Ce résistant, cet inventif qu'est José Bové. Alors moi, je pense à tous ceux qui voudraient signer la pétition l'appelant à se présenter et qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc, je propose de mettre leur nom sur la pétition. Pour cela, il faut qu'il m'appelle au 04 90 54 67 14 ou bien chez Marc au 04 66 67 16 86. Alors, si vous tombez sur mon répondeur, laissez-moi votre nom, prénom, adresse complète et profession ou si vous êtes au chômage. Donc, je répète les numéros 04 90 54 67 14 ou bien 04 66 67 16 86. Il faut à tout prix relancer la dynamique unitaire de la vraie gauche. Sinon, on va le payer très très cher. Allez, salut tout le monde.
Oui, bonjour, c'est Manu. Donc, je vous appelle pour signaler le café repère au Point Bar à Autun, qui aura lieu le jeudi 18 janvier à 18h30. Explication de la vie associative, vie culturelle à Autun. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra. Au revoir.
Un petit message pour les AMG de Montreuil et de ses environs, pour les informer que le repère a changé de jour, mais pas d'heure. Ce n'est plus les premiers et mardis du mois, mais un mercredi sur deux, à partir du 17 janvier, 18h30. Et toujours au Ratatam, le bistrot sympa. Voilà.
Bonjour à tous. Le repère de là-bas si j'y suis au milieu des betteraves du Gâtinais est ouvert tous les vendredis à 19h30 pour accueillir les AMG du sud de l'Essonne et du nord Loiret. C'est au café La Tête des Trains à Toussons, petit village de 386 habitants entre Milly-la-Forêt et Malesherbes. Très facile à trouver. Donc, chaque vendredi, on se retrouve pour blablater ou même danser le folk trad breton comme vendredi dernier. Et pour ce vendredi 19 janvier qui arrive, Camille, du Comité citoyen pour un contrôle de l'Organisation mondiale du commerce de Nemours, sera présente pour vous présenter la rencontre du dimanche 11 février avec Suzanne Georges, vice-présidente d'ATTAC. Venez nombreux pour ce mini-débat avec le Comité de Nemours, ce vendredi 19 janvier à 19h30, café La Tête des Trains de Toussons, Sud-Seine-et-Marne. Bien à vous. Ciao.
Ici, le repère de Nîmes. AMG de Nîmes, des alentours ou en voyage par chez nous. Nous avons rendez-vous ce soir à 19h23 au Petit Subito, 5 rue Jean Reboul. Toujours le premier, le troisième mercredi du mois. À très bientôt.
Edgar Morin, je me suis demandé en lisant simplement c'est le titre de votre bouquin, Le monde moderne et la question juive. On pourrait dire ça autrement, on pourrait dire le monde moderne est la question juive, ou bien on peut dire le monde moderne est, au sens de haïr, la question juive.
Hein? Oui, mais du reste, on m'a reproché autre chose, c'est de dire question juive, comme si on en faisait une question vraiment particulière, et comme déjà c'était faire une critique des juifs. Moi, à quoi j'ai répondu, j'ai dit, je l'ai pris dans le sens le plus banal. On a parlé de la question d'Orient, la question des Balkans. Ce sont des problèmes qui se sont posés. Et c'était, le problème, c'est d'identifier le problème. Alors donc, voilà.
Voilà, c'est là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, avec Edgar Morin, Le monde moderne et la question juive. Flight number 2, arriving from... Alors, je veux bien qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire qu'il y a, un prétexte à ce bouquin. Hein. C'est des thèmes sur lesquels vous travaillez depuis longtemps, et vous revenez là-dessus, on connaît vos positions, vous avez raconté aussi bien votre histoire familiale, hein, l'histoire de la famille Morin, du père, etc. Et puis, à travers vos positions politiques, on va dire, ouais. Hein, par rapport au conflit, alors conflit du Proche-Orient. Alors, on va venir là au prétexte du bouquin. Mais il y a une chose que vous dites à un moment dans le bouquin, vous dites la question juive ne regarde pas seulement les juifs, ça nous regarde tous. Au moins pour cette raison de ce conflit israélo-palestinien, qui est, alors vous aviez dit un cancer, ça vous a coûté cher, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est au cœur du problème actuellement, hein, c'est l'épicentre d'un chaos, d'un cancer. Et au moins pour cette raison-là, la question juive nous concerne tous. Alors, je vais revenir maintenant à ce qui a déclenché le livre. La dernière fois que je vous ai vu, c'était ici, en 2002. Vous veniez avec Sami Nahir et Daniel Salnav dans le journal Le Monde de publier un papier qui a fait grand bruit, qui a eu beaucoup de conséquences, qui s'intitulait « Israël, le cancer », c'est
non,
ça ?
Non, le cancer, deux points, Israël, Palestine.
C'est ça. Et alors,
c'est le conflit qui est le cancer.
Alors, cet article vous a valu des poursuites, oui. Des procès. Il y a eu une condamnation en appel, c'est-à-dire que Edgar Morin condamné en appel pour
diffamation raciale.
Diffamation raciale. Et puis la Cour de cassation a cassé ce jugement, a condamné ceux qui vous poursuivaient à des amendes, etc. Et vous voilà lavé, si toutefois vous aviez été un jour sali par cette histoire. Et au début du bouquin, vous avez une petite anecdote où vous racontez comment la femme de Léon Blum. Il vous laisse raconter l'histoire.
Oui, elle n'était pas encore la femme, c'était l'amoureuse de Léon Blum à l'époque du Front Populaire, et elle adorait venir le retrouver sur les quais en face du Palais Bourbon, entre deux séances de l'Assemblée. Alors ils étaient là tous les deux sur le quai, à parler tendrement, et une femme très bien habillée s'avance vers eux, s'approche de Léon Blum, lui crache au visage, et puis s'en va. Et Léon Blum, tout en continuant à parler avec Jeanne, prend un mouchoir négligemment et s'essuie le visage comme si de rien n'était. Voilà. Et je disais, on ne peut pas répondre à un crachat.
Voilà. C'est comme ça que vous avez réagi à ces poursuites et à ces attaques ?
Oh,
aussi noblement ?
Non, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, quand il y a eu cette condamnation, il y a eu un texte, et maintenant par un certain nombre d'amis et de non-amis, non-juifs ou juifs, pour protester contre le côté grotesque ou odieux, et peut-être l'un et l'autre, de ce jugement d'appel. C'est cette protestation-là qui a suscité une colère terrible dans certains milieux d'égarés ou d'excités. Enfin,
les égarés, les appelés.
J'appelle les égarés. Et c'est vrai qu'il y a eu des sites de mails insultants même ceux qui avaient signé en ma faveur les traitants d'antisémites, moi qualifié d'antisémite, enfin un nombre d'injures formidables, etc. Donc, si vous voulez, ça a déchaîné cette colère. Et par contre, le jugement de cassation n'a suscité aucune réaction officielle. Voilà. Alors donc, moi, comment j'ai réagi? Je dois dire que je me suis senti, bien sûr, offensé, mais pour moi, j'ai connu tellement de gens qui ont été calomniés atrocement, les uns parce qu'ils étaient trotskistes, calomniés par les staliniens, les calomniés de toutes sortes, j'ai vécu des calomnies. Et je me dis, ben mon Dieu, je suis pas le plus calomnié, je suis pas la plus grande victime, on n'a pas réussi à me faire taire. Donc j'ai vraiment relativisé mon cas. Ça m'a chagriné incontestablement. Et puis, vous savez, c'est pas la première fois que je suis l'objet d'un rejet. Ben, cette fois, ça vient des milieux officiels juifs, mais enfin, j'ai été rejeté par l'État légal de Vichy, j'ai été rejeté par le Parti communiste, j'ai même été rejeté à l'époque de la guerre d'Algérie parce que je défendais l'odeur des messalistes qui étaient un parti national algérien, de messaliadj, qui étaient insultés, traités de flics, de collaborateurs, pas seulement par le FLN algérien, mais par toute l'intelligentsia de gauche française qui était intoxiquée par ça. Bon, j'aime pas ça, être rejeté. C'est pas une chose nouvelle pour moi.
Ah oui, quand on est visible, on est visé. Quand on se rend visible, on est visé. C'est ce que vous faites. Vous vous rendez visible depuis des années. Vous prenez parti. Quand on prend parti, on y est pris à partie.
Bien sûr, mais surtout, je prends des prises de position qui sont malheureusement minoritaires. Et alors, c'est cette façon d'être... J'ai dit, je suis marginal et je suis super marginalisé. Je commence à être un peu fatigué, mais enfin, je peux supporter ça.
Alors, ce livre et la genèse de ce papier, c'est-à-dire que vous remontez très très loin, presque pour nous expliquer les raisons de ce papier, et vous commencez par l'histoire des Juifs, quoi. Alors, c'est pas un bouquin d'histoire, hein, c'est un bouquin...
C'est une réflexion historique.
Une réflexion, un essai avec...
Est-ce que j'avais déjà commencé à le faire dans un premier article que j'avais fait dans les années 80 qui s'appelait juif adjectif ou substantif. Et à l'époque, je disais que le mot de juif comme substantif, vous pour qui, c'est de faire partie d'un État qui est juif, d'une nation qui est juive, d'un peuple qui est juif et d'une religion qui est juive. Ce qui était vrai dans l'Antiquité et ce qui est vrai maintenant pour certains, une partie des Israéliens. Mais quand on est dans ce monde moderne et dans mon livre, je d'avance la notion de judéo-gentil, il y a deux composantes dans l'identité, dans notre identité. On est juif de par les anciens, les ancêtres, les ascendances, mais on est gentil par la culture.
Restons sur le mot gentil. Le mot gentil n'est pas aussi connu que vous le pensez. Et puis l'association judéo-gentil, alors là, ça vient de sortir, c'est du Morin.
Oui.
Alors restons sur le mot gentil.
Le mot gentil, ça vient du latin, gentilis, c'est-à-dire, les latins avaient traduit le terme de goïm, n'est-ce pas, qui veut dire l'étranger, ceux des autres nations. Et du reste, dans les traductions normales des évangiles, il y a l'épître de Paul qui dit « il n'y a plus de juifs ni de gentils ». Et moi j'ai repris ce terme, disons, parce que c'est du français. « Gentil » est entré dans le vocabulaire français, je crois, au XVIe siècle, j'en sais rien. Mais si j'avais dit des judéo-goy, ce serait bizarre, parce que « goy » est un mot hébreu. Alors, « judéo-gentil », ça veut dire que on a deux composantes dans l'identité. Une composante qui peut être juive, pour certains ça peut être quelque chose de religieux, pour d'autres ça peut être simplement le fait que ils font partie d'une lignée qui a beaucoup souffert dans le passé, bon, et qui ne veulent pas renier. Mais gentil, pourquoi? Parce que la culture n'est pas celle du Talmud, mais la culture c'est Montaigne, c'est Shakespeare, c'est Dostoïevski, c'est les droits de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui vient, dans le fond, du monde moderne, de cette culture qui s'est épanouie à la Renaissance, et à laquelle ont contribué certains que j'ai appelés les post-marins, c'est-à-dire d'origine juive convertie, comme Montaigne, Spinoza et Cervantes. Donc, si vous voulez, gentils, par exemple, prenez Marcel Proust, Simone Veil, même Einstein, tout ça, ce sont des gens qui ont ces deux composantes de façon différente. Il y en a qui se sentent plus juifs que gentils, d'autres beaucoup plus gentils que juifs, comme Marcel Proust. Et il y en a même où l'antisémitisme réveille leur côté juif. Donc même dans un même individu, ça peut changer. L'existence d'Israël a restimulé et intensifié le côté juif au détriment du côté gentil pour tous ceux qui sont adhérents inconditionnellement d'Israël. Mais pour moi, c'est une notion centrale. Parce que le vocabulaire, c'est beaucoup plus que du vocabulaire. Si je dis judéo-gentil, je dis que... Et quand même, ils sont marqués par cette culture européenne, humaniste, etc., qui s'est développée dans le monde moderne. Si ces deux notions, juif et gentil, sont opposées, alors je crée une barrière et un fossé. Et moi, j'ai voulu montrer que pour beaucoup, il n'y a pas de barrière, il y a une fossé, mais il y a une interaction. Et donc,
soit vous mettez beaucoup de monde dans le camp, oui, des judéos gentils. Einstein, Freud, bien sûr, Marx, bien sûr, Proust.
Et oui,
et écoutez, ça fait quand même du monde et du beau monde.
Il y a beau monde, mais il y en a encore plus. Il y a Husserl, enfin, vous parlez pas beaucoup. Parce qu'en effet, l'apport des judéos gentils à la culture européenne a été très riche et très important. Et j'ai voulu montrer, dans le fond, que quand le monde juif s'ouvre, à travers l'échange et l'osmose culturelle, quelque chose de très fécond qui ressort. Mais quand il se referme, alors, à ce moment-là, on perd cette fécondité.
Alors,
c'est ça qui m'est reproché aussi, d'ailleurs.
Ceci, en dépit, on va revenir, parce qu'on va essayer de voir après comment vous opposez ça, comment ce que vous dites là, on a envie de dire, mais ça s'oppose au sionisme. Mais avant de venir à ça, est-ce que ce développement de ce que vous appelez les judéo-gentils, ce développement se fait à cause de ou en dépit de l'antijudaïsme ?
Il s'est fait, historiquement, à partir du fait que un certain nombre de gens sont sortis du judaïsme, notamment, et ont manifesté au XVIe siècle, comme Montaigne, ou système comme Spinoza, quelque chose qui a été un apport dans la culture européenne, donc dans la culture des gentils. Alors, on peut dire que ils sont au-delà du christianisme et au-delà du judaïsme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'antisémitisme, lui, renforce la composante juive du judéo-gentil, parce qu'il se sent exclu, ou parce qu'une partie de la nation à laquelle il voudrait appartenir le rejette. Et d'ailleurs, ce n'est pas valable que dans ce cas-là. C'est souvent les orphelins, les marginaux, ceux qui ont une étrangeté par rapport à d'autres, ceux qui ne sont pas normalisés, ceux qui ne sont pas normaux, qui apportent quelque chose de novateur ou de créateur dans la culture, dans les arts, dans la musique, enfin dans la poésie, partout. Et je peux dire que ce qui est fécond, c'est cette mixité, c'est cette rencontre. Parce que, bien qu'intégrés, les judéo-gentils savent qu'il y a quelque chose qui les rend différents des autres. Parfois c'est un je ne sais quoi, difficile à dire, et parfois même c'est quelque chose qui vient des antisémites. C'est la conception qu'a Sartre, disons, du juif. Il est juif parce que l'antisémite
lui dit qu'il est juif.
Ce qui est vrai en partie, d'ailleurs, dans l'histoire, parce que il aurait pu avoir une intégration beaucoup plus facile via les mariages mixtes et autres, de cette singularité. Mais je crois, si vous voulez, que tout ça vient dans un double jeu. Un jeu dans lequel c'est l'adhésion à la culture humaniste qui a une potentialité universelle et dans lequel, effectivement, les judéo-gentils sont portés, même quand ils sont très attachés à leur nation. Et d'un autre côté, il y a cette tendance à la refermeture sur l'identité juive quand arrive. Mais si vous
prenez... Mais ça, Edgar, est-ce que c'est pas le cas de tous les groupes sociaux? C'est à la fois... Vous dites, oui, les juifs, ils ont ceci de particulier, c'est que, à la fois, ils ont tendance à s'enfermer sur une identité, mais il y a aussi quelque chose qui les pousse vers l'extérieur, à ces deux forces. Est-ce que c'est pas le cas, vous qui êtes, entre autres, sociologue, nous l'oublions pas, est-ce que c'est pas un peu le cas de tous les groupes sociaux?
C'est vrai, mais ceci relève d'une histoire tout à fait millénaire, dans laquelle beaucoup se sont demandé, mais qu'est-ce qui fait que les juifs continuent à être juifs? Et là-dessus, Spinoza avait une réponse que je trouve très juste, il a parlé de la haine réciproque. Ça veut dire, c'est pas seulement la persécution qui a fait que les juifs se sont refermés sur eux-mêmes, mais c'est que pour la synagogue, pour le christianisme n'est pas admissible, pas seulement parce que Jésus a dit qu'il était le Messie, mais parce que la notion de Trinité est très bizarre pour des gens qui ont une conception d'un Dieu unique totalement abstrait et innommable. L'idée qu'un homme peut être à la fois humain et divin, comme Jésus est ressuscité, c'est pas... Alors donc, il y a une incompatibilité religieuse qui a joué. Et surtout, comme les Juifs étaient la minorité, c'est eux qui étaient les persécutés. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas tolérer le christianisme en tant que tel. Alors donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui a maintenu l'identité. Et dans les temps modernes, il y a une sorte de fidélité communautaire. Et puis, il y a le rejet. Qui les rejette à nouveau, qui leur renvoie cette fidélité communautaire.
Mais est-ce que, juifs persécutés, vous retracez à grandes enjambées hein, l'histoire des juifs, mais il n'y a pas toujours la persécution. Vous évoquez une sorte d'âge d'or, peut-être que vous le rendez peut-être plus doré qu'il ne l'était, de l'Andalousie. Là, les uns et les autres, musulmans, chrétiens, juifs, vivaient en bonne entente.
Oui, il y a eu quand même des épisodes dramatiques, mais à certains moments, mais en fait, c'était un univers d'échange, et même ils discutaient sur la religion, aussi bien les musulmans, les chrétiens et les juifs, mais c'était une entente, mais sur une base de... le fond était la tolérance religieuse islamique à l'égard des ressortissants des religions du livre, puisque dans le fond, dans le Coran, Jésus, Moïse, Abraham sont des prophètes. Donc, le Coran est un fruit, disons, judéo-gentil, si l'on peut dire, n'est-ce pas? C'est l'influence de l'école judéo-chrétienne de Jérusalem qui a contribué à la conviction de Mahomet. Donc, si vous voulez, il y a le fait qu'il y avait cette tolérance islamique et que les royaumes chrétiens ont maintenu tant que l'islam n'a pas été totalement chassé, et qu'il y avait, mais c'était uniquement religieux. Ce qui a changé, c'est la laïcité. Alors là, dans la laïcité, aussi bien chez les gentils, a créé une laïcité aussi chez les juifs, donc l'appel des libres penseurs. Mm-hmm. Spinoza est l'exemple fondamental de tout ça, parce que à l'époque, Descartes, Newton continuent à penser qu'il y a un Dieu qui crée le monde, comme ça, comme un architecte, etc. Mais Spinoza lui a mis la créativité dans la nature. Pour lui, c'est la nature qui est créatrice, la création de la nature. Donc c'est la coupure totale avec un Dieu créateur extérieur au monde. Donc, évidemment, il a été excommunié par la synagogue, mais c'est une croyance qui est aussi incompatible avec le christianisme même ouvert. C'est la philosophie moderne qui naît à partir de Spinoza. Donc, vous voyez, les Juifs contribuent à cette laïcité. Enfin, dans le cas de Spinoza, c'est éclatant. Mais on peut dire que même en France, où il y a eu au moment de l'affaire Dreyfus un très fort antisémitisme, même à ce moment-là, il y a eu aussi un parti très important qui a défendu Dreyfus et qui, dans le fond, intégrait totalement les Juifs. Donc, mais ce qui s'est passé au moment de l'affaire Dreyfus, c'est que justement Herzl, qui était ce Viennois,
Théodore
Herzl, qui voulait résoudre la question juive. Et il avait d'abord pensé que les 200 plus grandes familles de Vienne iraient solennellement à la cathédrale se convertir pour faire un exemple. Il pensait, il n'y a plus de questions juives.
Mais voilà, c'était la disparition, quoi.
Bien sûr.
La disparition des juifs.
Les
juifs se dissolvent dans le catholicisme, mais on n'en parle plus.
On n'en parle plus. Seulement, quand il est venu en France au moment de l'affaire Dreyfus, il a été tellement épouvanté par l'antisémitisme de droite qui était extrêmement virulent, qu'il a dit, on ne peut pas résoudre la question. Il faut qu'on ait notre pays à nous. Et il a, à ce moment-là, inventé le sionisme. Donc, si vous voulez, finalement, le sionisme, puis après Israël, c'est une conséquence de l'antisémitisme.
Yeah.
Edgar Morin, je voudrais qu'on reste là-dessus un petit peu, parce que ce que vous rappelez quand on arrive dans cette période de votre bouquin, c'est que le sionisme n'a pas eu beaucoup de succès. Enfin, ça a été, il y a beaucoup de forces dans le monde juif qui se sont opposés au judaïsme, à commencer par les religieux, en continuant par tous les progressistes et tous ceux, les gens du Bund, etc., qui s'étaient donné des tâches révolutionnaires ou de grandes réformes basées sur les partis ouvriers, etc.
Oui, et qui voulaient qu'on reconnaisse leur caractère ethnique, mais au sein de la Pologne, au sein de la Russie. Ils n'avaient pas du tout l'idée, n'est-ce pas, qu'il fallait aller ailleurs. Vous avez tout à fait raison. C'est une tendance très minoritaire, mais ce qui lui a donné de la force et de la vigueur, ça a été effectivement la persécution nazie et Auschwitz et tout ce qui s'en est suivi. Alors là, il est certain que l'idée sioniste a pris de la force jusqu'à cristalliser cet État d'Israël qui s'est formé en 48.
Alors est-ce que votre concept de judéo-gentil, et vous-même vous considérant comme tel, c'est un bouquin sur les judéo-gentils écrit par un judéo-gentil?
Exactement.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il y a un judéo-gentil d'une catégorie particulière, parce qu'il sait lui-même qu'il a cette double composante d'identité, alors que beaucoup n'ont jamais réfléchi à ça.
Alors, donc, est-ce que ces judéo-gentils, y compris parmi les judéo-gentils dont on a la liste, est assez prestigieux, hein? Ça va de Montaigne, Marx et Einstein, Freud et Edgar Morin.
Merci. Merci de...
Est-ce que ce concept-là ne s'oppose pas au sionisme actuel?
Vous savez, le sionisme est un mouvement donc avec l'idée d'une patrie propre aux Juifs, et il faut dire que des gens comme Einstein, comme Freud pensaient que ça n'avait pas de sens, n'est-ce pas? Bon, alors une fois que le sionisme s'est installé et que l'État d'Israël, beaucoup de judéo-gentils ont senti vibrer en eux d'une façon plus profonde leur composante juive. Pourquoi? Parce que pour eux...
D'abord, le choc du génocide.
Il y a eu la notion de génocide, parce que beaucoup, pour eux, c'était secondaire, et ça a été un rejet radical allant jusqu'à l'extermination, ça c'est certain. Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est que beaucoup ont vu dans l'Israélien le pionnier qui fertilise le désert. Ils ont vraiment cru à ce thème, disons, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Ils ont vu surtout celui qui fertilise. Ils ont vu aussi, notamment après les premières guerres d'indépendance, David, c'est-à-dire l'armée d'Israël, Saül David, terrassant les Goliaths, c'est les armées arabes venues pour l'exterminer. Et donc, ils ont tiré une image très importante pour eux-mêmes, parce que l'image, disons, dégradante du juif, c'est des commerçants, c'est des gens d'argent, ils n'ont jamais fait de l'agriculture, et puis ils savent pas se battre. Donc, cette magnifique image, ils ont commencé à souffrir qu'elle soit altérée, à partir du moment où il y a eu l'intifada, la première, n'est-ce pas, où c'était des gamins, cette fois, qui prenaient le rôle de David contre Goliath, qui était de Saül, où on a commencé à voir la façon de réprimer dans les territoires palestiniens, ne serait-ce que les bulldozers qui démolissent les maisons, les missiles, etc. C'est-à-dire une sorte de disproportion, même si la télévision ne montre pas toutes les humiliations quotidiennes que subissent les Palestiniens, mais ils voient bien qu'il y a une disproportion écrasante. Alors, donc, à ce moment-là, ils veulent garder cette image, ils disent, ah, c'est la télévision, elle est pro-palestinienne, et puis s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont bien obligés, c'est parce qu'il y a les attentats suicides. Ils sont pris dans une sorte de justification effrénée. Et parmi ceux-ci, bien entendu, une partie où la composante juive et, je dirais, israélienne de leur identité est devenue très forte. Par exemple, moi j'ai vu une chose significative dans cette idée de peuple. Quand on a fait les calculs pour les juifs qui ont été morts dans les camps de concentration, on en notait tant de juifs polonais, tant de juifs bulgares, tant de juifs roumains, tant de... C'était, on les définissait par rapport à leur nationalité d'origine. Mais quand il y a eu le grand anniversaire d'Auschwitz, il y a 2 ans, je crois, à ce moment-là, y compris la presse française, a parlé du martyr qu'a subi le peuple juif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, si vous voulez, quand les juifs ont été intégrés dans les nations, ils ont fait partie d'un état national qui était leur, la France, ils se sont intégrés dans le peuple français, et puis, au besoin pour la religion, ils sont devenus laïcs. Alors, on ressuscite l'idée du peuple juif, et d'ailleurs les groupes extrémistes, quand ils manifestent, ils disent un même peuple en France et en Israël. Donc, si vous voulez, on ressuscite une sorte de communauté qui fait que la composante juive devient de plus en plus forte chez tous ceux qui sont, disons, israélo-centrés.
Mais est-ce que ce sont deux notions qui s'opposent? Est-ce qu'il y a une opposition entre les judéo-gentils, c'est-à-dire en somme les juifs de la diaspora, et les juifs d'Israël? Est-ce que c'est deux choses, est-ce que c'est deux mondes qui s'opposent?
Ben, en réalité, ils ne s'opposent pas pour tous ceux qui sont liés de façon quasi ombilicale à Israël. Ils sentent une double identité, une double patrie. Vous savez, pendant longtemps, les communistes, et tout en étant des nationaux français, les communistes, ils étaient, pour eux, l'Union soviétique était une patrie aussi, patrie du socialisme. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'on puisse avoir une double nationalité, une double racine nationale. Ce qui s'oppose aujourd'hui, ce sont ceux qui restent fidèles aux idées universelles, aux idées humanistes, et qui s'intéressent à tous les maux de l'humanité, et ceux qui sont uniquement centrés sur les intérêts d'Israël. Je cite une phrase d'un Américain dont la mère était juive, qui disait « Mon fils, il y a ceux qui, après Auschwitz, font tout pour que jamais plus cela n'arrive à notre peuple, et il y a ceux qui, après Auschwitz, font tout pour que ça n'arrive à aucun peuple ». Et ce sont deux façons différentes de tirer vraiment la leçon d'Auschwitz, qui disent il ne faut plus que ça arrive à qui que ce soit. Et donc, si vous voulez, voilà la différence. Mais la coupure, elle n'est pas entre ceux qui se trouvent en Israël et ceux qui se trouvent en France. D'ailleurs, vous avez une minorité quand même importante en Israël qui fait des critiques très radicales et qui même est parfois plus clairement que beaucoup en France.
Edgar, vous n'auriez jamais été poursuivi comme vous l'avez été en Israël pour le papier que vous aviez publié dans Le Monde en 2002.
Absolument pas.
C'était même bénin. C'est un petit critique.
Il y a des papiers beaucoup plus durs et terribles qui paraissent. Écoutez, le rabbin Leibovitch avait parlé de l'état judéo-nazi. C'était excessif, mais enfin, il a pu le dire sans qu'on le poursuive. Non, il y en a qui parlent de crimes de guerre, il y a des propos très très... Non, ici, il y a une intimidation, il y a une timidité, il y a une peur, c'est sûr.
Mais qui ressemble assez à ce qu'était le terrorisme intellectuel au temps, justement, de l'Union soviétique. Hein.
Oui, parce que c'est la même structure mentale, c'est-à-dire la critique est jugée ignoble, immonde. C'est-à-dire, la moindre remarque, on disait, alors à l'époque, les communistes disaient, ah, c'est l'anticommunisme, c'est l'antisoviétique, c'est être ennemi de la paix. Et là-dessus, on veut protéger par une sorte d'immunité Israël de toute critique, et surtout quand sa politique devient de plus en plus difficile à justifier, il y a une sorte de rage contre ceux qui critiquent cette politique.
Vous avez des pages aussi sur l'islamisme. Et c'est des pages assez sombres, hein. Vous n'êtes pas très gai là-dessus, hein. Et puis sur la situation actuelle de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Je voudrais que vous parliez aussi de l'islam, de l'islamisme. Est-ce que, comme d'autres, vous êtes inquiet d'une montée de cet islamisme et d'une éventuelle guerre de civilisation?
Vous savez, d'abord, ce qui me désole le plus, c'est ce formidable anti-judaïsme. Je dis anti-judaïsme parce que, puisque les Arabes sont des sémites, alors il ne faut pas faire trop de confusion de mots. Donc un formidable anti-judaïsme qui s'est développé, qui se propage et qui s'accentue dans le monde arabo-islamique à partir effectivement de ce qui se passe en Palestine, de l'existence d'Israël et de la politique sur la Palestine. Et ça, je pense que c'est terrible, parce qu'en plus, dans ces pays qui l'ont, enfin, ils ont même repris l'arsenal des arguments anti-juifs fabriqués dans l'Occident, comme le protocole des sages de Sion. Et tout ceci ne peut que s'accroître avec les deux poids deux mesures qu'on continue à appliquer au Moyen-Orient et plus largement aux pays musulmans en général. C'est ça qui m'épouvante véritablement. Bien entendu, cela étant dit, que l'islamisme fleurit dans le fond parce que sur l'échec, disons, de la démocratie dans ces pays et le développement de la corruption, sur ce qu'a été l'échec du socialisme arabe, sur tous les échecs comme ça, de la civilisation contemporaine, c'est sûr. Mais il n'y a rien qui soit fait pour aller contre ce mouvement, ne serait-ce qu'en essayant de rétablir une politique plus équitable entre les deux parties, Occident et monde arabe musulman. Donc, si vous voulez, je suis très inquiet, j'ai l'impression qu'on va vers la catastrophe. Elle n'est pas fatale. Prenez le problème de l'entente, l'accord israélo-palestinien qui a été frôlé à Camp David, hein, il a été frôlé. Il aurait pu avoir lieu au moment de Rabin, lequel a été assassiné. Il devient de plus en plus difficile. Les pays arabes qui avaient renoncé à l'idée de rayer Israël de la carte, étaient même prêts à rétablir des relations à condition qu'on fasse la paix sur les bases des frontières de 67. Ces pays arabes, on n'a pas répondu à leurs avances. Et puis, On a demandé qu'il y ait la démocratie en Palestine. Ils ont voté le Hamas. On ne reconnaît pas le Hamas. Le Hamas ne reconnaît pas Israël. Cercle vicieux. Regardez maintenant les affrontements entre Hamas et le Fatah, des signes de décomposition. En Israël même, tout ce qu'a fait Olmert, la guerre au Liban, la répression qui continue à être toujours féroce sur Gaza, le Liban qui lui-même peut-être est au bord de l'implosion ou de se casser en deux, les demandes d'intervention contre l'Iran, et même, je dirais que les propos du président iranien disant qu'il faut rayer Israël de la carte, de tous les côtés, le cercle vicieux s'accroît et s'amplifie. Alors maintenant, l'espoir ne peut venir que de l'imprévu, que de l'inattendu, qui peut très bien arriver. Par exemple, le rapport Becker, à mon avis, c'était une voie, mais je pense que Bush ne le suivra que goutte à goutte, et toujours trop tard.
Et ce sera des gouttes de sang.
Même des flots de sang. Donc, l'Europe se montre complètement impuissante dans cette histoire-là. Alors, où sont les sources d'espoir actuellement? Non, il y a des résistances, il y a quelques Israéliens qui continuent à rencontrer des Palestiniens, il y a quelques gens qui continuent à dire qu'il faut essayer de trouver une solution. Mais c'est vrai que la situation pourrait sembler désespérée. Je dis sembler parce que dans ma vie, j'ai vu des situations désespérées brusquement se métamorphoser. J'ai vu qu'au décembre, par exemple, 1941, alors que l'Union soviétique était perdue, que Moscou était prête de tomber parce qu'elle était assiégée par l'armée nazie, j'ai vu qu'il y a eu la première contre-offensive victorieuse soviétique qui s'est déclenchée le 5 décembre et le 6 décembre, le Japon attaquait Pearl Harbor et faisait entrer l'Amérique dans la guerre. Il y a eu un renversement. Bon, on peut toujours penser que quelque chose peut surgir et qui puisse changer le cours des choses. Mais le cours des choses, tel qu'il nous apparaît, je dirais presque maintenant jour après jour, est catastrophique.
Et on peut finir, parce que le mot catastrophique là, est trop scandé, on va finir avec ce que vous appelez le principe d'Hölderlin, c'est-à-dire là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.
Heureusement, je me le suis souvent répété aux autres.
Et on le répète à notre tour. Merci, oui. Edgar Morin. Pleine forme, Edgar Morin, 86 ans. Merci, Edgar Morin. Le titre du bouquin, c'est Le monde moderne et la question juive. C'est aux éditions du Seuil. À lire également, j'ai parlé de Orwell, George Orwell hier, le livre de John Newsinger aux éditions Agone, La politique selon Orwell, une lecture politique de la politique telle que Orwell la concevait, l'a conçue tout au cours de son œuvre et de sa vie, qui ne fut peut-être que politique. Concernant les repères de la base J'y suis, vous pouvez avoir des tas de précisions sur le site de France Inter à la rubrique émission La base J'y suis ou bien sur le site www.la-bas.org où vous pouvez écouter et réécouter ces émissions et beaucoup d'autres. À la technique aujourd'hui, Michel Bertin et Alain Gadan, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, se tient près du répondeur, prêt à sauter sur vos remarques, observations, coups de gueule et coups de cœur au 0156 40 37 37 et nous les écouterons demain. Réclame.